Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ce soir, comme vous le savez, nous allons avoir notre 8e message de la série « Les yeux portés vers le ciel ». Et j'aimerais aussi dire que je n'ai pas cherché à rendre ces messages difficiles, mais plutôt très simples, très basiques, afin que nous ayons tous une compréhension des réalités du ciel telles que révélées dans la parole de Dieu. Et j'espère que ces messages vous ont été utiles autant qu'à moi dans mon cœur. Ils m'ont procuré cette attente du ciel qui devrait caractériser tout croyant. Dans Philippiens 3:20, vous vous souvenez que l'apôtre Paul nous dit que nous sommes citoyens du ciel. C'est là qu'est notre demeure. C'est là qu'est notre place. Et Jésus dit qu'il est parti nous préparer une place, une demeure dans la maison du Père, et qu'un jour il reviendra et nous prendra afin que nous soyons avec lui. Alors, en ce qui concerne les chrétiens, notre place est au ciel. La place qui nous convient, c'est le ciel. C'est notre demeure. Et ensemble, nous avons étudié de plus près notre demeure pendant cette série. Maintenant, dans le désir de comprendre tout ce que nous pouvons sur le ciel, notre approche du sujet a été de poser et de répondre à des questions. Ai-je besoin de vous les rappeler? Nous avons commencé par la question « Qu'est-ce que le ciel ?» Nous avons décidé que le ciel est un lieu. Nous avons ensuite posé la question « Où est le ciel ?» Nous avons conclu que la Bible indique que le ciel est en haut, au-delà du premier et du deuxième ciel. Il est au-delà de l'univers créé tel que nous le connaissons, la sphère dans laquelle Dieu demeure dans sa présence infinie. Nous avons encore posé la question « À quoi ressemble le ciel ?» Et nous sommes allés dans les passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament qui décrivent la beauté, la merveille, l'étendue, le caractère incompréhensible du ciel. Puis nous avons posé la question de savoir qui est au ciel. Nous avons parlé de Dieu. Nous avons dit que c'est sa demeure. Nous avons parlé des saints anges. Nous avons aussi évoqué le fait que nous, qui connaissons le Seigneur, sommes citoyens de ce lieu. Après avoir abordé le thème, à quoi le ciel ressemblera-t-il, poussant la description du ciel un peu plus loin, et ensuite, ce que seront nos relations au ciel? Quelle sera notre relation avec Dieu, notre relation avec Christ, notre relation avec les anges, nos relations les uns avec les autres? Et maintenant, nous examinons la question « Que ferons-nous au ciel ? Que ferons-nous ? Que passerons-nous l'éternité à faire ?» Et nous allons encore plus en profondeur dans cette question ce soir. Maintenant, laissez-moi vous faire un résumé, parce que nous avons déjà commencé cette étude. Premièrement, nous avons dit que nous adorerons Dieu et Christ. C'est-à-dire, nous adorerons. Le ciel est le lieu de l'adoration. Ce sera un lieu d'une adoration aimable et révérentielle. Nous allons adorer Dieu, glorifier Dieu, exalter Dieu dans sa plénitude. Ce sera un moment d'une louange émanant de motifs purs et d'une parfaite expression. Nos cœurs seront purs quand nous adorerons, et l'expression de nos cœurs sera aussi parfaite que notre cœur. Nous avons vu que c'est l'accomplissement du dessein de Dieu pour le salut. Car nous nous sommes souvenus de Jean 4, où notre Seigneur dit que le Père recherche de vrais adorateurs. Et Dieu nous a rachetés avec tous les autres qu'il a rachetés, afin de faire de nous des adorateurs éternels, qui passeront toute l'éternité à lui rendre gloire, à le louer. Et nous nous sommes rappelés une définition d'un chrétien de Philippiens 3:3. Nous sommes ceux-là qui adorent Dieu en esprit, et c'est cela la caractéristique d'un croyant. Alors, tout d'abord, nous passerons l'éternité à adorer Dieu, adorer Christ par des actes de vénération. Deuxièmement, nous avons noté que nous régnerons avec Dieu, nous régnerons avec Christ. Cela nous parle de notre autorité, de la sphère de notre responsabilité. Je suis confiant que chaque croyant aura une sphère de responsabilité, une sphère d'autorité au ciel. Cette autorité nous sera déléguée. Il n'y aura pas de leader autocratique, il n'y aura pas de leader indépendant. Nous allons tous opérer sous l'autorité déléguée de Dieu, comme Christ l'avait fait. Vous vous rappelez que Christ disait qu'il ne faisait que ce que le Père lui montrait. Et bien entendu, il règne sur un héritage que le Père lui a donné. Alors de même que Christ a l'autorité déléguée par le Père, de même aurons-nous au ciel une autorité déléguée. Nous allons régner, dit la Bible, sur le trône du Père, sur le trône avec le Fils et le Père, et nous exercerons ce règne par une sagesse parfaite. Alors nous régnerons sur une sphère de responsabilité, ayant reçu la délégation d'autorité, et notre règne sera un règne parfait, avec une sagesse parfaite. Jamais nous ne commettrons d'erreur, jamais nous ne ferons un mauvais jugement, jamais nous ne nous tromperons. Tout ce que nous ferons dans notre sphère de responsabilité sera parfait et juste. Maintenant, nous avons donc été sauvés pour être des adorateurs. Mais c'est aussi vrai que Christ ne nous a pas sauvés pour faire de nous des adorateurs, mais il nous a sauvés pour faire de nous des gouvernants. Et nous avons vu le fait qu'il existe plusieurs passages des Écritures qui s'accordent à dire que nous serons des gouvernants au ciel. Nous aurons une sphère de règne, régnant à un niveau ou à un autre dans un royaume. Mais remarquez aussi ce que dit explicitement ce verset, « Sacrificateur pour son Dieu et Père ». Maintenant, gardez cela en tête. C'est une compréhension très vitale. Je ne sais pas si vous comprenez ce verset dans ses implications éternelles. Nous parlons beaucoup de la prêtrise du croyant, du fait que nous avons tous accès à Dieu. Nous sommes tous prédicateurs dans ce sens que nous pouvons aller directement dans la présence de Dieu. Mais avez-vous jamais pensé au fait que nous devons être des sacrificateurs éternels, de la même manière que nous devons être des adorateurs et des gouvernants éternels? Nous sommes aussi appelés à être des sacrificateurs éternels. Nous avons reçu un sacerdoce qui n'a pas de fin. Nous sommes sauvés pour être des sacrificateurs pour le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, que font les sacrificateurs? Nous ferons au ciel tout ce que font les sacrificateurs. Et la réponse est simple. Ils servent Dieu. Alors c'est le prochain point que je veux que vous écriviez pendant que vous réfléchissez à ceci. Troisièmement, au ciel, nous servirons Christ et nous servirons Dieu. Nous avons vu, premièrement, que nous louerons Dieu. La deuxième chose, nous régnerons. Troisièmement, nous servirons. Nous servirons. Et utilisons le mot « fonction ». Nous serons appelés à adorer. Nous serons appelés à exercer l'autorité. Et nous serons appelés à assumer des fonctions. Que font les sacrificateurs? Les sacrificateurs servent Dieu. Car un désirait consacrer la vie de son fils, un don de Dieu appelé Samuel. Elle prit le petit enfant, après l'avoir sevré, et le donna au souverain sacrificateur. Elle mit Samuel dans la maison de Dieu, et le laissa là pour toute la durée de sa vie. Vraiment, jusqu'à ce qu'il devint un homme fait. C'était un don pour la maison de Dieu, pour servir Dieu. Et c'est ce que font les sacrificateurs. Ils servent Dieu. Ils offrent des sacrifices, des offrandes et des services à Dieu. Le mot-clé, c'est le service. Ils rendent service à Dieu. Mais il y a un autre élément à ce service que j'aimerais relever. Ce que les sacrificateurs font, c'est servir Dieu dans l'intimité. Dans l'Ancienne Alliance, vous le savez bien, le sacrificateur avait une relation unique avec Dieu. En fait, l'Ancien Testament enseignait qu'aucun Israélite ordinaire ne devait trop s'approcher de ce qui symbolisait Dieu. Aucun Israélite ordinaire ne devait s'approcher des choses qui étaient des symboles de la présence de Dieu. Et même les Lévites étaient limités. Ils s'occupaient des choses de l'adoration, mais ils ne pouvaient pas s'approcher autant que les sacrificateurs. Eux seuls servaient Dieu dans l'intimité. Les Lévites servaient Dieu. Les Kohathites servaient Dieu dans le transport de l'Arche de l'Alliance. Tout le peuple d'Israël servait Dieu de diverses façons, mais les sacrificateurs servaient Dieu dans l'intimité. En dehors du sacrificateur, toute autre personne qui touchait les objets sacrés mourait. Seul le sacrificateur pouvait s'approcher de Dieu. Et seul le souverain sacrificateur pouvait s'approcher du lieu très saint. Et seulement une fois l'an, et pour un bref moment. Et c'est seulement après avoir respecté une grande purification et une purification du cœur qu'il pouvait aller dans la présence de Dieu. Uniquement les sacrificateurs pouvaient servir dans l'intimité. Mais sous l'Ancienne Alliance, cette intimité était restreinte. Dans Nombre, où vous avez l'histoire de ceux qui avaient violé la fonction du sacerdoce, il est dit que Moïse avait envoyé appeler Dathan et Abiram, les fils d'Éliab. Et ils ont dit, « Nous ne viendrons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous ? » Et vous vous souvenez de l'histoire des fils de Corée qui suit. et tous ceux-là qui franchirent le sacerdoce et le résultat tragique d'une punition terrible, mais alors terrible. Maintenant, ces personnes qui envahirent la fonction de sacrificateur, alors qu'elles n'y avaient pas droit, s'approchèrent de Dieu, au-delà des restrictions qui leur étaient fixées. Seuls les sacrificateurs pouvaient venir aussi près. Lévitique, chapitre 16, nous dit que seul le souverain sacrificateur pouvait s'approcher plus que les autres sacrificateurs, et il ne pouvait le faire qu'une fois l'an. Cependant, dans l'Ancienne Alliance, la caractéristique qui distingue le sacrificateur, c'est l'intimité, la communion, la proximité vis-à-vis de Dieu. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, que s'est-il passé? Quand Jésus-Christ mourut à la croix, le voile du temple se déchira de haut en bas. Le lieu saint dans le temple, à Jérusalem, fut exposé. Le Saint des Saints fut exposé à tout le monde. Et Dieu disait, par une illustration graphique, que tous ceux qui croient en mon Fils peuvent maintenant venir dans ma présence. Alors, dans la Nouvelle Alliance, chaque croyant est un sacrificateur, et nous avons tous accès à Dieu. Nous sommes un sacerdoce royal. 1 Pierre 2:9 dit que nous sommes littéralement appelés à la merveilleuse lumière de Dieu. Maintenant, pensez-y. Nous sommes appelés à la merveilleuse lumière de Dieu. Que signifiait cela pour un juif? Ce serait comme entrer dans la Shekinah, qui les aurait consumés dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, parce que Christ nous a ouvert le chemin, nous entrons littéralement dans sa merveilleuse lumière, parce que Dieu nous invite à sa lumière. Parce que, comme le dit Pierre, nous sommes un peuple, notez-le, qui appartient à Dieu. Le même verset, 1 Pierre 2:9, un sacerdoce royal, un peuple acquis à Dieu, appelé par Dieu dans son admirable lumière. Alors, sous la Nouvelle Alliance, nous jouissons tous de l'intimité. Nous avons tous accès. C'est la raison pour laquelle l'auteur d'Hébreux dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Nous entrons avec assurance dans la présence de Dieu pour communier avec lui. Et de cette communion intime, nous le servons. Voilà pourquoi, bien-aimés, il n'y a pas de sacerdoce. Il n'existe pas de sacerdoce spécial. Il n'existe rien de tel qu'un sacrificateur dans l'Église qui joue les intermédiaires entre nous et Dieu. Il n'existe pas de tel intermédiaire. Il y a un médiateur, dit Paul, dans 1 Timothée, entre Dieu et l'homme. Et c'est l'homme, Christ Jésus. Il n'existe rien qui soit un ordre de sacrificateur, qui se tienne entre les hommes et Dieu. Cela avait été aboli à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous sacrificateurs pour Dieu. Nous sommes tous un sacerdoce royal. Et nous communions tous avec Dieu dans l'intimité. Et nous n'avons pas besoin de sacrificateur intermédiaire qui aille devant Dieu pour nous. Mais un jour au ciel, nous serons des sacrificateurs parfaits. Et notez cette pensée. Nous ne nous approcherons pas seulement du trône de grâce. Nous irons au-delà du trône de Dieu, que Thomas Manton, le grand puritain, décrit comme étant la véranda du ciel. Et nous nous approcherons du trône de gloire. Nous serons capables de nous approcher du trône de gloire, pas seulement du trône de grâce. Maintenant, nous pouvons nous approcher du trône de grâce seulement parce que nous sommes pécheurs, et nous ne pouvons que nous arrêter à la véranda du ciel où nous recevons la grâce. Si nous nous approchions du trône de gloire, nous serions consumés à cause de notre péché. Mais un jour, quand nous quitterons ce monde et irons au ciel, et que nous serons dans un état parfait dans notre corps et notre âme, nous, dans notre état rendu parfait, nous serons de parfaits sacrificateurs qui vont au-delà de la véranda du ciel, le trône de grâce jusqu'au trône de gloire. Nous servirons éternellement notre Dieu vivant. Nous aurons une intimité éternelle et parfaite avec Dieu. Apocalypse dit que Dieu demeurera avec nous et nous avec lui. Il plantera littéralement sa tente parmi nous. Il dit que tout le ciel est un temple et tous ceux qui y sont, sont des sacrificateurs. Et Dieu occupe la plénitude de ce ciel éternel. C'est un grand ciel infini et éternel que Dieu remplit de sa présence. Et nous lui rendons ministère en tant que sacrificateur. Le temple de Dieu et le temple de l'agneau est aussi vaste que le ciel infini et éternel, et nous sommes ses sacrificateurs. Pensez-y, nous sommes ses sacrificateurs. Alors nous servirons Dieu en tant que sacrificateurs, des sacrificateurs qui ont un accès intime. Nous n'aurons jamais besoin de nous purifier. Nous n'aurons besoin de nous laver dans aucune cuve. Nous n'aurons pas besoin d'offrir des sacrifices pour que nos vies soient dignes d'accéder à Dieu. Nous n'aurons pas besoin de faire appel à un trône de grâce. Nous pourrons aller directement au trône de gloire parce qu'il n'y a aucun besoin de sacrifice. Il n'y a aucun besoin de purification. Tout cela a été géré dans le passé. Merveilleux! Nous entrerons au ciel et nous entrerons dans la plénitude de notre service sacerdotal, offrant nos services à Dieu. Et quelqu'un dira, « Et que ferons-nous donc ?» Et la réponse, c'est tout ce qu'il veut que nous fassions, avec empressement, joie et perfection. Dans Ésaïe 58, quelques versets peuvent vous aider à étendre votre compréhension. Le verset 13 dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Maintenant vous demandez, que veut-il dire? Écoutez attentivement, laissez-moi le relire. Voici le désir de Dieu pour nous. Si parce que c'est le sabbat, tu retiens ton pied pour ne pas faire ta volonté, en mon saint jour, c'est ce que Dieu a toujours voulu. Il a toujours voulu que ceux qui le représentent soient à son service. Et si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Voilà ce que Dieu recherche, et c'est ce qui se passera au ciel. Nous nous détournerons complètement de tout ce qui constitue nos plaisirs. Nous ferons du sabbat le reste de l'éternité des délices. Nous appellerons le saint jour éternel du Seigneur honorable. Nous nous détournerons de toutes nos voies, et nous nous détournerons de la quête de nos plaisirs. Et nous ne nous livrerons plus à nos vains discours. Nous prendrons entièrement et éternellement plaisir dans le Seigneur et son service, et il nous fera monter sur les hauteurs du pays. C'est cela le repos sacerdotal, dans lequel nous entrons au ciel. Et quand nous en parlons en termes de repos, un repos du sabbat, ce n'est pas le repos qui signifie que l'on ne fait rien, c'est le repos qui signifie que nous ne nous fatiguons pas. Nous ne sommes pas faibles, nous ne sommes pas distraits, nous ne sommes pas interrompus dans notre service éternel à Dieu. Notre service éternel à Dieu. Nous servirons Dieu. C'est ce que font les sacrificateurs. Maintenant, pour renforcer ceci avec des textes spécifiques, allons à la fin de la Bible, le livre d'Apocalypse pendant un moment, et voyons ce que la Bible dit de notre service au ciel. Lisons Apocalypse, chapitre 7. Dans ce septième chapitre, nous voyons des personnes au verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Et ici, ce sont tous les rachetés au ciel, et ils louent et exaltent Dieu, et magnifient Dieu. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen !» La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Cette foule précise est constituée des rachetés de la période de la tribulation. Cette période de jugement de 7 ans, après l'enlèvement de l'Église, et ces rachetés viennent de la tribulation, et ont lavé leurs robes, les ayant blanchies dans le sang de l'agneau. Ce qui veut dire qu'ils sont sauvés. C'est pour cela, remarquez le verset 15, qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et que font-ils? Et le servent, comment? Jour et nuit dans son temple. Et même, comme il n'y a ni jour ni nuit, vous comprenez l'idée de la terminologie terrestre. Ils le servent continuellement. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente ou son tabernacle sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est cela le service du repos. Pas de larmes, pas de fatigue, pas de chaleur, pas de faim, pas de soif. Nous voilà près du trône de Dieu, près du trône de Christ, abrités par la présence de Dieu, dans la présence de l'agneau, qui est notre berger et notre guide. C'est cela, servir Dieu dans l'intimité, voyez-vous? C'est cela l'intimité du ciel. Nous le servons jour et nuit dans son temple, et Dieu, qui est sur le trône, dresse ce tabernacle sur nous. Nous ne serons jamais en dehors de sa présence, et l'agneau est au centre de tout. Le mot « servir » ici est « latreuo », qui signifie « service sacerdotal », le service rendu par un sacrificateur dans l'intimité avec Dieu. Permettez-moi que j'ajoute une remarque qui va vous aider à comprendre ce que je dis. Au ciel, nous ne nous servirons pas mutuellement en tant que tels, nous servirons Dieu. Vous n'aurez pas besoin de moi, et je n'aurai pas besoin de vous, pour combler un manque dans ma vie. Le comprenez-vous? Nous n'aurons pas besoin de nous servir l'un l'autre, comme nous le faisons ici, ce qui, dans un sens, montre les domaines de faiblesse. Nous n'aurons pas de nécessité, puisque nous serons tous autant parfaits et glorifiés que Christ. Notre service sera entièrement rendu à Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne quitterons jamais sa présence. Nous serons toujours comme des sacrificateurs dont le rôle principal, en fait au ciel, dont la fonction est uniquement de servir Dieu, le service sacerdotal. Maintenant, allons dans Apocalypse, chapitre 22, le dernier chapitre de ce merveilleux livre prophétique. Et nous y trouvons des paroles qui ne sont pas étranges. Elles sont très similaires à celles que nous venons de lire. Verset 1. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs feront quoi? Le serviront? Encore une fois, le même mot, doulos, latreuo, les serviteurs qui font le service du sacerdoce. Nous ferons le service du sacerdoce auprès de Dieu. Nous ne quitterons jamais sa présence. Nous serons là devant le trône de Dieu, là devant le trône de l'agneau. Au verset 4, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Dieu nous marquera de son propre nom, et ses sacrificateurs qui lui appartiennent. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voici l'autre élément. Nous régnerons éternellement. Nous servirons éternellement comme sacrificateurs. Le service sacerdotal. C'est tellement palpitant, vraiment palpitant. Je suis tellement content de l'entendre, parce que, comme je vous l'ai dit ce matin, en parlant du service de ce soir, je n'imagine rien de pire que simplement être quelque part à ne rien faire. Cela n'aurait absolument aucun sens. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose dans la nature humaine, quelque chose à l'image de Dieu qui est en moi, et qui a besoin de servir, qui a besoin de faire quelque chose. J'ai tout d'abord besoin, dans mon état rendu parfait, de faire quelque chose pour le Dieu qui m'a racheté. En fait, personnellement, je pense que c'est évident que lorsque votre corps et votre âme sont rendus parfaits dans la présence de Dieu, vous êtes littéralement consumés par un désir éternel de servir Dieu, et cela devrait avoir une issue évidente, un accomplissement, et ce sera le cas. Vous accomplirez le plus profond penchant de votre personne rachetée à servir Dieu. Vous dites, quel type de service ferons-nous? Il ne donne pas les spécificités. Pourquoi essayer? Nous ne pouvons pas comprendre le ciel. Nous ne pouvons pas du tout le comprendre. Mais nous servirons Dieu de toute façon. Mais cela cadre avec mon sens personnel d'humanité, de ce qu'un homme ou une femme est réellement. Nous avons besoin de servir. Nous avons un sens de créativité encastré en nous. Nous voulons voir quelque chose accompli. J'éprouve du plaisir à bien faire quelque chose, pas vous? J'éprouve du plaisir à avoir un sentiment d'accomplissement d'une tâche réalisée. J'éprouve beaucoup de plaisir à rendre service et à savoir qu'une personne est contente et que ce sera merveilleux de rendre service à Dieu qui procurera un parfait plaisir à Dieu. Il y a le défi de la tâche. Il y a le défi de l'accomplissement. Il y a le défi de faire une chose et de la faire parfaitement. Imaginez-vous que durant toute l'éternité, tout ce que vous le ferez avec perfection. Et vous le ferez. Oui, vous le ferez. Ce n'est pas que Dieu le rendra automatiquement parfait. Vous le ferez. Et ce sera toujours parfait. Voilà ce que Dieu avait prévu que vous soyez et que vous fassiez, Maintenant, pendant que je suis encore sur ce point, permettez que je vous donne une autre idée. Je crois vraiment que la nature de notre service... Réfléchissez maintenant à ceci. La nature de notre service est vraisemblablement déterminée par notre service ici et maintenant. Le comprenez-vous? Maintenant, vous vous souvenez que je vous ai dit que la nature de votre héritage, dans la gloire, sera proportionnelle à la gestion de votre héritage ici. Si vous étiez fidèle sur peu, il vous confiera quoi? Beaucoup. Et nous avons vu des paraboles au sujet de ceux qui étaient fidèles sur quelques villes et qui avaient reçu plus de villes. Et je pense que cela nous conduit à la gloire. Dans un sens, si vous êtes fidèle avec une petite responsabilité ici, Dieu vous donnera une plus grande responsabilité au ciel. C'est votre héritage. Si vous êtes fidèle sur quelques services ici, il vous donnera proportionnellement plus de services au ciel. C'est votre récompense. Et nous avons parlé de la récompense des croyants. Je crois que la récompense des croyants n'est pas une chose que vous portez sur la tête comme une couronne. Ce ne sont pas des rayures sur votre robe blanche. Ce n'est pas ces chambres dans votre château, afin que votre château soit la taille de votre service ici. C'est cela votre récompense. Ce n'est pas que votre char sera plus grand et plus rapide que ceux des autres, ou votre cheval blanc. Je crois que votre récompense au ciel sera la taille de votre engagement au service ici. Dieu vous donnera une plus grande capacité au ciel, afin que vous puissiez exprimer à un plus haut niveau votre service à Dieu. La capacité pour un plus grand service, c'est, je crois, l'essence de ce que sera votre cœur. Ce ne sera pas un chapeau à porter. Ce ne sera pas des rayures sur votre robe. Ce ne sera pas une maison dans laquelle vous vivrez et qui est plus belle que celle de tous les autres. Ce ne sera pas cela. Ce sera la capacité à effectuer le service spirituel. Chacun de nous sera récompensé. Regardez pendant un temps 1 Corinthiens. Examinons brièvement le chapitre 4. Puis le chapitre 3, 1 Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi, ne jugez de rien avant le temps, c'est-à-dire quand le Seigneur viendra, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Ensuite ceci, alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Chacun recevra la louange de Dieu lorsqu'il sera devant lui, mais la louange de chaque homme ne proviendra que de Dieu. Dieu fera une évaluation de notre intendance. Verset 1. Nous sommes des serviteurs et des administrateurs. Verset 2. Les administrateurs doivent être trouvés fidèles. Verset 3. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par moi-même. Verset 4. Même quand je ne sais rien qui soit contre moi, je laisse à Dieu le soin de juger. Un jour arrive où il jugera mes motifs, et il jugera mon service, et il me donnera sa louange. Alors Dieu a le plan de récompenser tout croyant. Veuillez noter, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Chaque croyant recevra la louange de la part de Dieu. Chaque croyant recevra une récompense. Les récompenses pourraient varier. Vous remarquez au chapitre 3 que cette œuvre que nous faisons peut aussi varier. Vous vous souvenez qu'il dit dans ce chapitre au verset 12, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, qui est Christ, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée. Nous serons tous récompensés, mais différemment. Certaines de nos œuvres seront bonnes, certaines d'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Le bois, le foin et le chaume sont mauvais, sont méchants, sont du mal. Ils n'ont pas beaucoup de valeur. En fait, ils tendent à être brûlés. Nous serons tous récompensés et recevrons la louange de la part de Dieu. Mais nous serons tous récompensés différemment, selon le service que nous aurons rendu. Et la récompense, je crois, sera la capacité à servir Dieu dans la gloire. Et je pense que cela nous est démontré dans ces paraboles, où ceux qui avaient été fidèles sur peu avaient reçu beaucoup. Ce serviteur qui avait fructifié les quelques talents qui lui avaient été confiés avait reçu le double de la part du maître rémunérateur. Ce serviteur qui avait reçu 5 talents, avait reçu le double de la part du maître rémunérateur. Ce que nous faisons de notre privilège à servir ici déterminera ce que Dieu fera de nous en nous laissant le servir au ciel. Et dans ces paraboles des serviteurs que nous trouvons dans Matthieu et Luc, nous nous souvenons que dans chaque cas, quand le maître est revenu pour récompenser ses serviteurs, il les récompensait proportionnellement, en leur confiant une plus grande sphère de service ou une plus grande sphère d'influence. et donc nous gouvernerons et servirons en rapport à notre fidélité à exercer notre autorité ici et notre service. Maintenant, les Écritures ont beaucoup à dire sur cette récompense, et je ne veux pas me retrouver à donner tout un message sur la récompense. Mais laissez-moi vous lire quelques passages. Daniel 12:3. Ceux qui auront été des clairvoyants resplendiront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Maintenant, ce qu'il dit ici est très simple. Si vous enseignez la justice à la multitude, vous resplendirez comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Votre récompense est donc prédite dans le message, sur la base de votre fidélité à proclamer le message de la justice. Tous ceux qui ont la sagesse resplendiront, comme la splendeur de l'étendue céleste. Et ce que Daniel dit là, c'est que votre fonctionnement dans cette vie avec la sagesse de Dieu, votre fonctionnement dans cette vie vis-à-vis de la proclamation du message de Dieu, déterminera comment vous resplendirez dans l'éternité à venir. Dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre, tellement de passages, je ne veux pas me retrouver avec plusieurs. 2:19, il dit, « Qui donc est en effet notre espérance, notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, à son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Paul dit qu'une partie de la récompense que nous aurons sera la récompense de voir ceux qui y sont, à cause de notre fidélité. Cela fera partie de notre récompense. Une partie de notre récompense, notez ceci, n'est pas seulement le service, mais la joie. Juste la joie de voir des gens qui y sont parce que nous étions fidèles fera partie de notre récompense, une partie importante de notre récompense. Et encore, j'insiste, que ce n'est pas une chose que vous portez, c'est une chose que vous expérimentez, un service supérieur, une responsabilité supérieure, une joie supérieure. C'est essentiel pour comprendre tout ceci. Dans 1 Corinthiens 9:25, Paul dit « Nous recevrons non un ornement corruptible ou une couronne corruptible, mais une couronne incorruptible. » Maintenant, notez cette pensée. Ce que cela veut dire, c'est que lorsque nous recevrons notre récompense, elle ne mourra jamais. Les athlètes qui ont remporté de grandes victoires ou reçu de grands honneurs en connaissent l'émotion. Dans ma carrière d'athlète, je sais ce que ça signifie de gagner un match important, de gagner un match d'handball, d'avoir un prix, de recevoir la reconnaissance, une reconnaissance nationale ou d'un autre ordre. Vous savez ce que ça fait de voir une athlète monter sur les marches élevées pour recevoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques? Cet instant d'extase, ce bref instant d'exaltation. L'autre nuit, je regardais le Orange Bowl et je voyais Jimmy Johnson éberlué pendant qu'on le transportait dans le stade dans des cris de joie extatique pour avoir remporté le championnat national. Et c'est probablement le lendemain qu'il est revenu à la réalité. Bien, si vous pouvez le transcrire en termes de ciel, au ciel nous jouirons pour toujours de ce moment d'émotion qui ne diminuera jamais, ne baissera jamais, ne finira jamais. Vous serez sur la marche du gagnant pour recevoir la médaille d'or pour aduler le Dieu vivant éternellement. Ce sera notre expérience infinie, ininterrompue. Vous recevrez cette couronne qui ne se fane jamais, qui est incorruptible. Il n'y a jamais le matin suivant. C'est une joie et une exaltation continue. Maintenant, la Bible promet une couronne de la vie, une couronne d'un coureur, et toutes ces choses. Tout cela, ce sont des capacités de servir, ou simplement qui renvoient à la vie éternelle. Je crois que la couronne de vie est la vie éternelle. La couronne impérissable est, dans un sens, la vie éternelle. La couronne de joie, c'est la vie éternelle, mais c'est la vie éternelle remplie de joie et du privilège de servir. Paul écrit dans 2 Timothée, chapitre 4, vous connaissez ce verset, un verset familier. Verset 8, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Qu'est-ce que la couronne de justice? C'est la justice éternelle. La couronne de vie, c'est la vie éternelle. La couronne de joie, c'est la joie éternelle. Alors la couronne n'est pas une chose que vous portez, je le redis. C'est quelque chose que vous expérimentez. La vie éternelle, la joie éternelle, le privilège éternel de servir, la félicité éternelle, c'est cela la récompense. Pierre écrivant dans 1 Pierre 5, je pense que vous devez vous souvenir des versets 2 et 3, dit, Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Qu'est-ce que c'est? La gloire éternelle. La couronne de vie, c'est la vie éternelle. La couronne de réjouissance, c'est la réjouissance éternelle. La couronne de gloire, c'est la gloire éternelle. La couronne incorruptible, c'est cette récompense éternelle. Alors nous servirons, et je crois que notre service sera éternellement fondé sur notre fidélité ici et maintenant. Je crois vraiment, les amis, que notre façon de vivre maintenant détermine les capacités à servir dans les jours que nous passerons dans l'éternité. Pas vraiment des jours, mais les éons que nous passerons dans l'éternité. Apocalypse 2, 26 dit « Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Avec un spectre de fer, il les fera paître. » En d'autres termes, ce que vous faites maintenant détermine ce à quoi le Seigneur vous utilisera. C'est vrai. Apocalypse 2, 26. Alors, ce que nous faisons maintenant détermine la capacité de la récompense future. Écoutez, Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma rétribution. Écoutez, pour rendre à chacun selon son œuvre. Avez-vous compris cela? Votre capacité pour la joie éternelle, la gloire éternelle, la récompense éternelle est liée à ce que vous aurez fait. L'or, l'argent, les pierres précieuses, le bois, le foin, le chaume. Que ferons-nous au ciel? Nous allons adorer, nous allons régner, nous allons servir. Notre capacité à régner sera fonction de notre fidélité vis-à-vis de notre responsabilité et de notre intendance ici. La capacité de notre service sera déterminée par notre fidélité à servir ici. La couronne de vie sera proportionnelle à notre obéissance ici. Nous jouirons de la vie éternelle au maximum. Mais cette capacité sera déterminée par la fidélité dont nous aurons fait montre ici. La couronne de gloire, la même chose. Alors, à ce niveau précis, en tant que sacrificateurs, nous faisons des choses dans ce monde pour servir le Dieu vivant, qui affecteront notre capacité à le servir dans l'éternité. Cela devrait motiver nos cœurs. Parfois, les gens veulent nous encourager et vous disent de ralentir et de faire moins. Mais si vous le voyez de ce point de vue, c'est l'opposé, n'est-ce pas? Nous devons vraiment nous dépenser au maximum ici, afin que nous puissions avoir la capacité maximale de rendre gloire au grand Dieu et notre Père et au Seigneur Jésus-Christ pendant toute l'éternité. Voici une chose que nous ferons au ciel. Ce n'est pas vraiment ce que nous faisons, mais il faut bien que cela rentre quelque part. Alors je vais l'insérer ici. Nous serons continuellement rafraîchis par lui. Appelons cela le repos. Nous nous reposerons au ciel. Hébreux 4 parle d'entrer dans le repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Jésus dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Une des promesses que Dieu a faites à ceux qui croient en son Fils, c'est que nous connaîtrons le repos de nos œuvres faites en essayant de trouver Dieu, le repos de notre travail, la justice, mais pas le repos de la fonction. Dans Luc 13, 29, la Bible dit que nous nous assiérons à la table de banquet. Nous avons déjà mentionné cela dans cette série. Cela ne veut pas dire que nous resterons assis tout le temps. Quand Hébreux 3 et 4 parlent du repos, qui est là pour le peuple de Dieu, cela veut dire que nous ne nous lasserons jamais. Cela signifie que nous ne serons jamais faibles. Cela signifie que nous serons toujours accomplis. Cela signifie que nous ne serons jamais interrompus. C'est un repos unique en son genre. Pendant que vous y êtes, lisez Apocalypse 14, verset 11. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et il s'agit là de ceux qui avaient été jugés pendant la tribulation. Évidemment, leur jugement est sans repos. Mais d'autre part, le verset 12, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils, quoi, se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Le repos, le repos. 2 Thessaloniciens 1, 7 appelle cela le soulagement, le soulagement. Il dit que quand Jésus viendra, il soulagera les affligés. Soulagement, repos. Que veut dire cela? Cela veut dire le repos spirituel. Cela veut dire le repos de la fatigue et de la faiblesse. Il n'y aura plus jamais la soif. Il n'y aura plus jamais la fatigue. Il n'y aura plus jamais de chaleur pour nous fatiguer. C'est cela le repos éternel. Cela ne veut pas dire que nous ne servons pas. Nous régnons. Nous servons sans cesse, en plus d'un repos éternel. Pouvez-vous le gérer? Formulez-le ainsi. Plus vous servez, plus vous êtes reposé. Plus vous servez, plus vous êtes rafraîchi. Vous voyez, ce n'est pas la loi de la thermodynamique que nous appelons entropie qui fait que tout se désintègre qui ne sera pas active. Et donc, il n'y aura pas de force débilitante. Plus vous servez, plus vous atteignez vos objectifs, plus vous êtes rafraîchi. Aucune énergie ne sera jamais dépensée. L'avez-vous compris? Vous ne dépenserez jamais aucune énergie. Vous n'allaiterez jamais. Vous ne manquerez jamais de souffle. Vous ne ralentirez jamais le pas. Pensée incroyable. Repos parfait. Repos parfait. Le grand pasteur puritain Richard Baxter avait écrit, et ces mots méritent d'être écoutés. Repos. Que ce mot est doux à mes oreilles. Je pense que le son de ce mot se change en une substance qui, étant entrée dans l'oreille, possède mon cerveau et de là descend dans mon cœur. Je pense que je le sens stimulé et œuvré et dans toutes mes parties et mes forces, mais avec une œuvre qui diffère pour chacune de mes parties. Pour mes sens fatigués et mes esprits languissants, il semble être un tranquillisant opiacé. Pour mes forces engourdies, il est esprit et vie. Pour mes yeux sombres, il est aussi bien un collyre et une éventualité. Pour mon goût, c'est la douceur. À mes oreilles, une mélodie. Pour mes mains et mes pieds, c'est la force et la vivacité. Je pense que je le sens digérer pendant qu'il progresse et augmente ma chaleur naturelle, humidifie et s'étale tel un cordial vivifiant dans mon cœur là. Il envoie des esprits vivants qui battent à travers toutes les pulsions de mon âme. Un repos, non pas comme la pierre qui repose sur la terre, ni comme ces mottes de chair reposeront dans la tombe, afin que nos bêtes se reposent aussi comme nous. Ce n'est pas non plus la satisfaction de nos convoitises charnelles, ni un repos tel que le monde désire. Non, non, nous avons un repos différent de celui-ci, un repos dont nous jouirons de nos œuvres, qui était un moyen de se reposer. Pourtant, c'est la plus infime partie. Ô heureux repos, où nous n'arrêterons jamais de jour comme de nuit de dire « Saint, 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 Éternel des sabbats », où nous nous reposerons du péché, mais non de l'adoration, de la souffrance et de la tristesse, mais non du réconfort. Ô heureux jour, quand je me reposerai avec Dieu, quand je me reposerai dans la connaissance, l'amour, la réjouissance et la louange, quand mon âme parfaite et mon corps parfait profiteront parfaitement de ces choses du Dieu le plus parfait, quand Dieu aussi, qui est l'amour même, m'aidera parfaitement, et oui, et je me reposerai dans son amour pour moi, comme je me reposerai dans mon amour pour lui, et il me réjouira à mon sujet, avec des joies et chants, et je me réjouirai en lui. Fin de citation. Repos, repos, repos. Enfin, et ceci me déconcerte, allez dans Luc 12. Luc 12, verset 35. Mettez une ceinture à vos reins, et que vos lampes soient allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Maintenant écoutez. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Arrêtez-vous à ce niveau. C'est incroyable. Il y a une autre chose que nous expérimenterons au ciel. Êtes-vous prêt pour cela? Le Seigneur Jésus nous servira. Le Seigneur Jésus-Christ nous servira. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra et les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Êtes-vous prêt pour ceci? Il y a une autre chose qui se fera au ciel pour toujours et à perpétuité. Dieu le Fils servira les rachetés. Est-ce une chose incroyable? Jésus se sert ici de l'imagerie humaine d'un grand maître qui rentre dans son palais. Ses esclaves sont là et l'attendent. Tout est préparé. Ils ont été fidèles à leur maître, et à son arrivée, il organise un merveilleux rassemblement. Il ne cherche pas à avoir du repos. Il ne dit pas à ses esclaves « Bon, je veux dormir quelques instants. J'ai fait un si long voyage. » Il dit « Non. Je veux que vous, mes esclaves, vous vous asseyez, et je vais vous servir un repas, en signe de gratitude pour votre service que vous me rendez et de ce que vous êtes éveillé à mon arrivée. Le maître ne cherche pas à se reposer, il ne cherche pas à se retirer pour la nuit. Il transforme ses esclaves en rois et organise un festin en leur honneur, et étonnamment, il n'ordonne pas à d'autres serviteurs de les servir. Il le fait lui-même. Maintenant, j'ai dit il y a quelques instants que nous ne nous servirons pas au ciel, mais nous serons servis par le Seigneur lui-même. Fantastique comme pensée. Le Seigneur céleste lui-même nous servira pour toujours et à perpétuité. Quand il viendra et trouvera que nous avons été fidèles, il nous servira éternellement. Est-ce une vérité motivante? Comment le ciel pourrait-il avoir une plus grande félicité que celle-ci? Comme c'est merveilleux de penser que nous l'adorerons pour toujours, que nous régnerons avec lui pour toujours. Quelle merveille de savoir que nous le servirons éternellement, que nous aurons du repos dans ce service pour toujours. Mais merveille des merveilles, au-delà de tout cela, imaginez qu'il nous servira éternellement. Pourtant cela semble nous surprendre. Il avait lavé les pieds des disciples parce qu'il les aimait, Jean 13, et il nous aimera aussi parfaitement, et il nous servira. Bien, quand on pense au ciel, c'est formidable, n'est-ce pas? Thomas Watson dit, « Un vrai saint fait chaque jour un tour au ciel. Ses pensées, ses désirs sont comme des chérubins qui s'envolent vers le paradis. » Fin de citation. Regarder vers le ciel est sensé, bien-aimé. Cela fait beaucoup de sens. Cela fait beaucoup de sens de vous affectionner aux choses d'en haut quand nous réalisons de quoi il est composé. J'aimerais clôturer avec une petite liste d'un inventaire personnel et j'aimerais que vous le compreniez parce que c'est la conclusion de cette série. Très brièvement. Ne vous déconnectez pas, restez avec moi. Quel est l'avantage d'avoir les regards tournés vers le ciel? Pourquoi avoir passé 8 semaines sur ce sujet? Écoutez attentivement. Je vais vous en donner plusieurs. J'en ai noté 7. Quel est l'avantage d'avoir les yeux tournés vers le ciel? Premier avantage, c'est l'évidence du salut authentique. C'est l'évidence d'un salut authentique. Êtes-vous concerné par le ciel? C'est une bonne indication que vous êtes sauvé. Est-ce là qu'est votre cœur? Attendez-vous impatiemment d'être dans les lieux célestes? Soupirez-vous avoir une communion avec Dieu? Vous amassez-vous un trésor dans ce lieu? Vous affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas? Avoir ses regards tournés vers le ciel est un indicateur d'un salut authentique. Un cœur tourné vers le ciel est un cœur tourné vers Dieu, et un cœur tourné vers Dieu est un cœur que Dieu a changé. L'évidence la plus vraie de la grâce salvatrice pourrait être une attitude céleste. Deuxièmement, avoir les regards tournés vers le ciel est important parce que c'est une motivation à atteindre la plus haute excellence du caractère chrétien. Rien ne peut vous obliger à être ce que Dieu veut que vous soyez, autant que les vérités du ciel. Si vous comprenez l'héritage, la récompense, les gloires, les privilèges et les capacités du ciel, et vous comprenez que Christ lui-même vous servira éternellement par gratitude pour ce que vous aurez fait, c'est la réalité la plus obligeante pour vous pousser vers la plus haute excellence du caractère chrétien. C'est l'espérance qui purifie, dit Jean, qui purge nos cœurs. Communier avec le Seigneur du ciel, le fait d'y aller à travers la prière, la méditation et la dévotion purge le cœur et motive à l'obéissance. Troisièmement, l'avantage à porter les regards vers le ciel, c'est que c'est le vrai chemin qui mène vers une vie de joie. C'est le vrai chemin qui mène vers une vie de joie. Si vous voulez être misérable, focalisez-vous sur ce monde. Si vous voulez être joyeux, focalisez-vous sur le ciel. David dit que la lumière du visage de Dieu réjouit le cœur. Nous nous réjouissons dans l'espérance, et nous pouvons supporter toute souffrance à la lumière de cette gloire, dit Paul. Le poids éternel de gloire, loin au-delà de toute souffrance, ici, dans cette vie. Et donc, quand nous regardons vers le ciel, cela devient l'évidence d'un salut authentique, la motivation pour la plus haute excellence du caractère chrétien, et le chemin le plus vrai qui mène à une vie de joie. Quatrièmement, tourner les regards vers le ciel est le meilleur moyen de se préserver de la tentation et du péché. C'est le meilleur moyen de se préserver de la tentation et du péché. Pourquoi? Une pensée céleste ne succombe pas aux profondeurs du mal. Une pensée céleste ne succombe pas à la vanité. Une pensée céleste n'est pas victime de pulsions sexuelles. Une pensée céleste est une pensée céleste, pas une pensée terrestre. Et quand vous vous affectionnez aux choses d'en haut, dans Colossiens 3, Paul dit que vous mortifierez les œuvres de la chair. vous les anéantirez. Les tentatives et les tentations de Satan consistent à tendre ses pièges, pour nous y prendre, avec notre pensée focalisée sur la terre. Mais montrez-moi un croyant dont la pensée est tournée vers le ciel, qui soupire après une justice parfaite et la présence de Dieu. Et je vous montrerai une personne qui n'est pas une proie facile pour Satan. Cinquièmement, porter les regards vers le ciel maintient la vigueur du service spirituel. Porter les regards vers le ciel a l'avantage de maintenir la vigueur du service spirituel. Écoutez-moi. Si vous courez lentement dans la course chrétienne, si vous travaillez très peu dans le service chrétien, si vous êtes infidèle à rendre au Seigneur ce qui lui est dû, c'est parce que vous avez peu d'égard au prix qui vous est promis. L'avez-vous compris? Parce que si vous aviez assez de considération pour le prix céleste, vous seriez obligé de rendre un service spirituel. La ferveur vient de la vision de la récompense du ciel. Et quand vous comprenez la réalité de la récompense éternelle du ciel, vous devez être obligé à effectuer le service spirituel. Sixièmement, l'un des avantages à porter ses regards vers le ciel, c'est que Dieu en est honoré avant tout. Qu'est-ce que je veux dire par là? Simplement que lorsque votre cœur est tourné vers le ciel, vous démontrez votre amour pour Dieu. Votre service fidèle procure à ceux qui vous observent une haute opinion de Dieu, leur montre qu'il n'est pas seulement exigeant, mais qu'il est aussi totalement digne. Vous vivez dans une sphère céleste. Vous vivez dans une sphère céleste et vous honorez le Dieu exalté. Mais quand vous vivez dans la boue du monde, vous déshonorez Dieu en disant « Ceci compte plus pour moi que lui ». Si vous vivez en regardant vers le ciel, vous honorez Dieu, devant tous ceux qui voient votre vie, et vous dites « Quel Dieu vous servez, qui est si digne de votre meilleur effort ». Finalement, l'autre avantage de porter ses regards vers le ciel, c'est que cela rend l'appareil à Dieu. Cela rend l'appareil à Dieu. Vous dites « Que voulez-vous dire par rendre l'appareil à Dieu ?» Bien, son cœur est toujours tourné vers nous. Pourquoi les nôtres ne seraient pas toujours tournés vers lui, n'est-ce pas? Son cœur est toujours tourné vers nous. Pourquoi nos cœurs ne devraient-ils pas être toujours tournés vers lui? Et en passant, rien dans ce monde ne mérite de retenir nos cœurs. Qu'en dites-vous? Inventaire personnel. Quels sont les avantages à porter ses regards vers le ciel? Premièrement, c'est l'évidence d'un salut authentique. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Regardez-vous constamment vers le ciel. Votre cœur a-t-il faim des choses de Dieu, de la communion avec Dieu, des réalités de l'éternité? C'est une preuve que vous êtes chrétien. Si votre cœur n'y est pas, l'évidence n'y est pas. Deuxièmement, si vos cœurs sont sur le ciel, c'est la motivation pour atteindre l'excellence du caractère chrétien. Quand vous communiez continuellement avec le Dieu vivant, quand vous avez l'espérance d'un ciel éternel, cela purifie votre vie, cela purge votre cœur. Est-ce avéré dans votre vie? Êtes-vous tellement porté vers le ciel que votre vie est pure? Troisièmement, c'est aussi le chemin le plus sûr pour une vie de joie. Expérimentez-vous la joie dans votre vie? Ou, quand vous faites un inventaire, êtes-vous constamment déprimé, abattu, buté, aigre, face à la vie? C'est parce que vous avez perdu votre joie, parce que votre visage est focalisé sur les choses de ce monde éphémère. Quatrièmement, nous avons dit que regarder vers le ciel est le meilleur moyen de se préserver contre la tentation et le péché. Si vous tombez continuellement dans le piège de Satan, c'est parce que vous vous préoccupez plus de choses ici que des gloires de Dieu. Cinquièmement, nous avons dit que porter les regards vers le ciel maintient la vigueur du service spirituel. Si vous avez des difficultés à être fidèle, diligent, à vous donner entièrement au service de Christ, c'est parce que vous avez peu d'égard au prix promis, que Dieu vous ait fait la promesse d'une récompense éternelle ne compte pas pour vous. Ce n'est pas aussi important que tout ce que vous faites de trivial ici. Et sixièmement, porter les regards vers le ciel signifie que vous honorez Dieu devant tous. Si vous menez ce type de vie, ceux qui vous observent diront « Il doit servir un Dieu merveilleux. Elle sert certainement un Dieu merveilleux pour pouvoir se donner totalement à lui. Et finalement, comment ne pas nous préoccuper de tourner nos cœurs vers Dieu alors que le cœur de Dieu est toujours tourné vers nous ? Porter les regards vers le ciel rend l'appareil à Dieu. Le psalmiste dit « Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Vous rassasirez-vous de moins que cela. Si c'est le cas, alors vous ne comprenez pas l'attitude d'une vie de la perspective du ciel. Qu'est-ce qui vous rassasira? Qu'est-ce qui vous rassasira réellement? Toute autre chose inférieure à être comme Christ est à côté de la plaque. Baissons nos têtes et prions. Père béni, merci pour ces merveilleux jours pendant lesquels nous avons étudié cet incroyable thème. Merci même pour ce soir, pour ce que tu as fait dans nos cœurs. Merci pour ton espérance d'un ciel. Seigneur Dieu, aide-nous à mettre notre focus là où il doit être. Aide-nous à regarder constamment vers le ciel, démontrant l'évidence de notre salut, étant motivés à atteindre la plus haute excellence du caractère chrétien, suivant le meilleur sentier d'une vie de joie, étant préservés du péché, maintenant la vigueur et l'énergie de notre service, t'honorant et renvoyant l'ascenseur pour ton affection constante et ton amour pour nous. Père, aide-nous, nous tous qui sommes ici, à examiner nos cœurs, afin que nous vivions en obéissance à l'espérance du ciel, pour nous contraindre à des choses que tu as pour nous. Au nom de Jésus. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.